une toute petite mise en scène pour commencer. Bon, ça tombe bien, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit, c'est vrai. Mais bon, là, ce n'est pas Nathanaël, il représente un prophète de Juda, d'accord? Et on est pas mal de siècles avant Jésus-Christ, ça va? Vous avez repassé le contexte? Donc, mon prophète de Juda, il dort. Et à un moment donné, quelqu'un arrive. Alors, Vito, c'est l'ange. Oui, un ange n'a pas d'aile, hein, vous savez tous, hein, c'est OK. Que va faire cet ange avec ce prophète qui dort?
Zacharie, il est temps de te réveiller. Je t'ai montré plein de choses en vision, mais là je dois te parler. Zacharie, viens, réveille-toi. Il est temps de te lever. Encore plein de choses que je dois te montrer. Viens, lève-toi.
Il a été gentil, hein. Moi, oui, il vous a respecté, hein, parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus énergique que ça, mais il a dit 4 janvier, on y va doucement. Ah, personnellement, j'aurais préféré que ça, enfin, tu vois, j'aurais vu beaucoup plus violent. Mais bon, c'est un ange très gentil, un ange du 4 janvier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va montrer quand même à notre prophète? Et comme il l'a dit très bien, l'ange, c'est Zacharie. Que va montrer l'ange à Zacharie? Alors là, je vais vous demander, bon, pour les visuels, j'ai eu pitié des visuels. Ah oui, Vito, si on pouvait, juste, je vais déposer quelque chose là-dessus. Alors, j'ai prévu quand même un petit accessoire pour les visuels, mais il faudra à tout le monde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Tu peux essayer de te le mettre devant, peut-être, parce que je voudrais mettre quelque chose là-dessus. Mais laisse la table là où elle est. Bon, je cherche mon accessoire. Hein. Voilà. Donc, il vous faudra énormément d'imagination. Qu'est-ce que montre l'ange à Zacharie? Il lui montre, ça c'est une toute petite menorah, une immense, immense menorah en or qui vient du ciel. Hein. Énorme, énorme. Et en plus, cette menorah, elle n'est pas du tout toute seule comme là. Hein. Donc, une immense menorah, c'est vraiment le mot menorah. Et cette menorah, qu'est-ce qu'elle représente? Question. Alors, je vous donne un petit indice. Apocalypse. Qu'est-ce que représentent les chandeliers ou menorahs ou porte-lampes dans l'Apocalypse? Les églises. Donc, cette menorah, c'est l'église. C'est nous. En tout cas, c'était super que Vito ait fait de grands, grands cercles. On va dire c'est nous. Hein? Là, vous remarquez qu'il y a 7 lampes. Et vous remarquez, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, après on verra les autres éléments de la vision de Zacharie, mais pour commencer, donc une menorah, 7 lampes, et puis remarquez aussi que comme on l'a figuré tous ensemble tout à l'heure, c'est, enfin dans la vraie menorah, hein, selon la pensée de Dieu, c'est une pièce unique en or, ça c'est pas de l'or, hein, mais c'est une pièce unique en or travaillé, en or battu, une seule pièce. Un seul corps, une seule pièce. Et en plus, c'est très, très, très précieux, c'est de l'or. Et le Seigneur considère son Église comme son trésor particulier, son or à lui. Vous remarquez donc que dans le plan de Dieu, dans l'ordre de Dieu, on n'est pas appelé à être ça. Vous voyez? Ça, c'est un petit porte-lampe unique, individuel, là, tout seul. Voilà. ça pourrait effectivement éclairer quelque chose, mais il est tout seul. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ça. C'est une pièce unique, beaucoup de lampes, mais on est tous reliés les uns aux autres. On est une pièce unique, avec cette diversité des lampes. Et ça, ce n'est pas la ménorah de Zacharie. Hein. On va passer maintenant à la ménorah très, très spéciale de Zacharie. Cette ménorah, en fait, elle n'est pas du tout unique comme ça dans la pensée de Zacharie. Elle est reliée. Et à quoi elle est reliée ? Elle n'est pas unique, hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'imagination, c'est d'abord une énorme ménorah, et en plus elle est reliée, elle est irriguée à deux oliviers, un de chaque côté. Alors là, il vous faut de l'imagination. Hein. En fait, vous avez au-dessus de cette ménorah, tout ça c'est relié à un vase, et puis il y a des conduits. On va prendre Zacharie 4, ça, si tu peux projeter David, Zacharie 4. C'est vraiment une ménorah spirituelle, quoi, une ménorah surnaturelle. Ça ressemble à rien de connu dans le monde concret, matériel. Alors, Zacharie 4. De toute façon, on va beaucoup rester sur Zacharie 4. L'ange qui parlait, donc, revint, me réveilla, comme un homme quand il tirait de son sommeil. Il me demandait, que vois-tu ? Je répondis, je vois un chandelier. En fait, le mot hébreu, c'est ménorah. Une ménorah tout en or, donc d'une seule pièce d'or, muni à la partie supérieure d'un réservoir ou d'un vase. Et ce mot vase, c'est un mot unique en hébreu dans l'Ancien Testament. C'est unique. Donc vous voyez, on est quand même dans une dimension autre que purement naturelle. Hein. Surmonté de 7 lampes, et il y a des conduits. Des conduits. Et le conduit, il y a aussi un mot hébreu, ça vient d'une racine hébreu, qui parle de verser, de répandre, d'onction. Vous voyez, 7 conduits pour les lampes, et 2 oliviers surplombent le chandelier, l'un à la droite du réservoir, l'autre à sa gauche. Ah, 2 oliviers. C'est quoi les oliviers ? Alors les oliviers, comme ça, on comprendra tout de suite ce que c'est, parce que sinon ça sera un petit peu dur à comprendre. Les 2 oliviers, ça parle de... On a l'explication tout à fait à la fin de Zacharie 4, et il nous dit, ces 2 oliviers, ce sont les 2 fils de l'huile fraîche, les deux oints ou les 2 fils de l'huile nouvelle fraîche. Ah, ça parle déjà de fils de l'huile, et pas n'importe quelle huile, une huile fraîche. Et ça, c'est les 2 oliviers. C'est quoi ça ? Ça, c'est très bizarre. Les 2 fils de l'huile nouvelle fraîche. Ah. Alors, bon. Oui, bon. C'est pas bien traduit. Hein. La vraie traduction, ce sont les 2 fils de l'huile nouvelle fraîche. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? 2 fils de l'huile, 2 onctions, 2 sortes d'onctions. L'onction, tout vient de Jésus. Hein. Les 2 fils de l'huile, en fait, ils représentent 2 facettes de l'onction de Jésus. 2 sortes d'onctions. Il y a donc, on nous dit que les 2 fils, c'est le souverain sacrificateur Josué et le gouverneur Zorobabel. 2 onctions. En fait, 2 faces de Jésus. Josué, souverain sacrificateur, ça parle de Jésus, onction sacerdotale. Et Zorobabel, gouverneur de Juda, ça parle de l'onction royale. Nous sommes un sacerdoce royal, dit Pierre. Les 2 onctions. Mais c'était tellement énorme, chaque onction, que ce matin, ce ne sera que l'onction royale, l'onction Zorobabel. Parce que sinon, c'est énorme, énorme. Mais il y aura peut-être une suite pour l'onction sacerdotale, parce que ça, c'est aussi énorme. Donc, on est dans... Alors maintenant, on va s'occuper plus spécialement de cette ménorah. Donc, un ménorah, principe de base, une pièce unique, on est un seul corps, et en plus, on est relié. On est vraiment relié. Si on n'est pas relié, on ne peut rien faire. On peut brûler, on peut briller, on peut être une lumière dans la mesure où on est relié aux oliviers, dans la mesure où on est relié à Jésus, l'onction, le porteur d'onction, c'est Jésus. Alors, d'accord, mais vous allez me dire, entre l'olivier et... ça, c'est de l'huile. Hein. On dirait que c'est de la cire, mais ce n'est pas de la cire d'abeille du tout, c'est de l'huile qui vient d'Israël, d'ailleurs. Hein. C'est des petites vases d'huile qui viennent d'Israël, d'huile d'olive. Entre l'olivier et l'huile, il manque une étape, vous ne croyez pas ? Non, il ne manque pas une étape. Il y a l'olivier avec les petites olives, là, vous voyez, vous visualisez l'olivier. Et puis, il y a l'huile d'olive. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a le pressoir. Il y a le pressoir. Pressoir à huile. Pressoir à huile, un mot araméen qui veut dire pressoir à huile, c'est Gethsémané. Gethsémané. Pressoir à huile en araméen. Ça veut dire que l'huile, l'onction, tout ce qui nous irrigue, nous, il y a eu un prix payé. Et je crois que c'est très très important qu'on n'oublie jamais, jamais, jamais que l'onction qu'on apprécie tellement, qui nous réjouit tellement, l'onction de joie, l'onction de force, l'onction, enfin toutes les onctions dont on bénéficie, il y a eu un prix terrible payé à Gethsémané, pressoir à huile, pour passer de l'olivier à tout ce qui nous irrigue, là, tous les vases. Et puis ça nous empêche de nous enorgueillir quand on est plein d'onction, tout ça. On dit non, 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 il y a quelqu'un qui a payé un prix fort pour ça. Alors maintenant, on va regarder un peu cette histoire d'huile et cette histoire de menorah aussi. Alors tout d'abord, l'huile, un premier principe, c'est que quand on est dans un... Oh, merci. Quand on est... les oliviers, ils ont beaucoup d'huile. Et ça nous montre que l'huile, un principe de base, ne manquera jamais, jamais, jamais. Oh là, tu peux... Je mets sur la table, je ne sais pas, parce que ça va retomber. L'huile ne manquera jamais. Du côté de Dieu, jamais la provision d'huile ne manquera. Alors, on a des petites images prophétiques par rapport à ça. On a dans 1 Roi 17, vous savez, la fameuse promesse donnée à la veuve, hein, « Ton pot de farine ne s'épuisera pas, ta cruche d'huile ne se videra pas tout le temps de la famine, de la disette. » Vous voyez, c'est déjà une image prophétique avec le prophète Élie. « Ton huile, elle ne tarira jamais. » Même s'il y a la famine ailleurs, même s'il y a la crise économique en France, même, non, ton huile ne tarira jamais. Et puis une autre image avec Élisée. Alors là, c'est plus que la provision d'huile qui ne tarit pas, c'est la multiplication d'huile. Vous vous rappelez cette histoire, c'est une veuve de nouveau. Le Seigneur a un intérêt très très spécial pour les veuves ou les femmes seules. Une veuve, ses deux fils, et puis il y a une terrible menace, un créancier qui veut en faire ses esclaves. Et puis elle apporte tous ses pots, elle demande tous les pots voisines. Et puis lui, il allait multiplier à travers un tout petit flacon, ça y est, ça multiplie. Et puis sa libération des dettes. D'ailleurs, dans le cas d'Élie, ce n'était pas la libération des dettes, c'était la résurrection du fils après. Hein. Donc, il y a une huile, une puissance de résurrection dans un cas, et une puissance de vie et de libération de l'esclavage dans un autre cas. Tout ça, c'est suite à cette onction d'huile intarissable. Donc, du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. L'huile, elle est sans fin, du côté de Dieu. Et c'est vraiment important qu'on se dise qu'il n'y a aucune limite à l'huile. Aucune limite. Alors maintenant, vous allez me dire, les problèmes, ah bah oui, c'est notre côté les problèmes. C'est pas côté Dieu. Côté Dieu, c'est des oliviers énormes, énormes, bourrés d'olives, c'est l'huile en abondance. Bon, côté Dieu, il n'y a aucun problème. Les réserves de Dieu sont inépuisables. Donc maintenant, il y a côté nous. Ah oui, alors côté nous, ça c'est autre chose. Alors il y a pas mal de choses de notre côté. Tout d'abord, les vases. Ils peuvent être tout petits. Bon là, vous voyez, c'est des vases tout petits. Dans la pensée de Dieu, nos vases doivent être énormes. Hein. Donc, il y a un problème de nos limites à nous, les concepts, les machins, enfin tout ce qui tourne dans notre cerveau, qui nous limite, qui nous rétrécit. Par exemple, une petite voix qui nous dit « 2015, ça va être comme 2014 », vous voyez ? Ça, c'est le genre de limite. Non, 2015 va être extraordinairement autre que 2014, ça va être une grande, grande, grande année. L'Esprit nous dit que ce sera une grande année. Donc ne disons pas que 2015 sera à peu près à l'aune, à la dimension, à l'envergure de 2014. Déjà là, on est dans la limite. Hein. Alors, on va peut-être faire une petite pause par rapport à Zacharie 4. Et par rapport à cette histoire de limite, c'est-à-dire de vase étroit, tout petit, là, avec une toute petite goutte d'huile dedans, on va se positionner pour... faire éclater toutes ces limites, d'accord ? Alors, il y a une super prière pour faire péter les limites. Et puis, en plus que les limites, ça fait plein de choses. Je vous propose qu'on dise ensemble la prière de Jabez. Ça vous va ? Hein ? Ça vous va ? Prière de Jabez. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une prière dans 1 Chronique 4, 10. Hein ? Voilà, prière de Jabez, c'est bien pour commencer l'année. Alors, on peut la dire ensemble, vous répétez après moi. Hein ? Dieu d'Israël, Israël, accorde-moi ta bénédiction. Agrandis mon territoire, étends mes limites, que ta main soit avec moi, Préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur, ou autre traduction, que je ne sois pas une cause de douleur. Voilà. Étends mes limites. Voilà. Déjà, on se vit dire, on est un grand vase relié à une provision inépuisable. Ça va, vous visualisez comme ça ? C'est pas mal, hein ? C'est bon ? On s'ajuste avec ça ? Ça, parce que ça, c'est la pensée de Dieu pour nous. Bon, ça, c'est une première chose, la taille du vase. OK. Deuxième chose. Ah, les vases, ils peuvent être pleins d'autres choses que d'huile. Et qu'est-ce qui aime bien prendre la place de l'huile dans le vase ? Je ne vous dis pas, c'est moi. Le moi. Le moi énorme, flasque, pas beau, vous savez, qui prend. Enfin, non, il est insupportable, ce moi. Alors, dans le moi, vous mettez plein de choses, hein, mais le moi, c'est. Alors, ça obstrue, hein, ça empêche l'huile de prendre la place parce qu'il prend toute la place, ce moi. Bon, les soucis, les blessures, les préoccupations, les émotions, les craintes, les machins, enfin voilà. Le moi, hein, la chair, en fait, la chair, dans toute sa splendeur. Le moi. Autre chose aussi, ah oui, même quand il y a de l'huile, tout ça, les mouches mortes. Les mouches de mort qui infectent l'huile du parfumeur, vous savez. Alors, les mouches mortes, c'est quoi ça? Ça peut être. Elles font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi, fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et sa gloire. Oui, la folie. Mettez ce que vous voulez dans les mouches de mort. Ça peut être des pensées qu'on accepte, hein, des pensées de tourment, des pensées humaines, des pensées de folie, quoi. Hein, des folies insensées dans la mesure où elles ne sont pas alignées avec la parole. Dès qu'on accepte dans sa petite tête une pensée qui n'est pas celle de Dieu, on est dans la folie qui infecte l'huile du parfumeur. Hein. Donc, que le Seigneur nous débarrasse de ces mouches de mort, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, tout ce qui attriste l'esprit. Oui, il y a de quoi faire quand même. Hein. Alors, je vais peut-être quand même vous partager par rapport à ça, un rêve que j'avais fait en avril 2009. Et c'était un rêve. En fait, je voyais trois tableaux. Premier tableau, un tourbillon de l'esprit, mais quelque chose d'étincelant. Vous savez, ce tourbillon étincelant, cette lumière, la lumière même hein, de Dieu, c'est qu'on voit dans le tourbillon d'Ézéchiel. Là. Un tourbillon étincelant, comme ça, qui tourne, et qui vise avec une précision incroyable une cible. La cible, je ne la voyais pas dans mon rêve, mais il vise un tourbillon. Donc le mouvement de l'esprit, avec une précision incroyable. Et on sait qu'il sera efficace et qu'il va faire ce pourquoi il a été lancé. Tourbillon d'esprit. Deuxième tableau, justement, le chandelier qui vient du ciel. Le magnifique chandelier d'or. Troisième tableau, alors ce n'est pas drôle du tout, c'était, je voyais un être masculin, un être féminin, un homme, une femme, et vautré par terre. Ce n'est pas du sommeil, là. C'était vautré dans la boue, quoi. Il n'y avait rien de noble, rien de beau. C'était laid, c'était vil, c'était bas, ce que vous voulez. Et ça, c'est la chair. Notre chair à chacun, elle est comme ça. Elle est incapable de toute bonne chose, cette chair. Et ce que veut dire ce rêve, hein, si vous voulez, c'est qu'on est de l'esprit, on est d'en haut. Notre chair à nous, on ne peut pas l'améliorer par des petits efforts personnels. On est d'en haut, c'est par l'esprit que ça se fait. Notre chair à nous, elle est complètement foutue, elle n'est pas belle, elle est horrible. À chacun de nous, quoi. C'est par l'esprit. Mais c'est important qu'on se voit nous-mêmes comme cette magnifique créature individuellement et puis collectivement. Hein. Nous, Église Josué, nous, Église de France, on est une magnifique menorah, un magnifique porte-lumière, un magnifique chandelier. Il faut qu'on le voit comme Dieu nous voit. On est son trésor. Parce que l'ennemi veut toujours nous attirer à nous voir comme dans la chair, et là c'est déprimant, c'est très déprimant de se voir dans la chair. Et voir les autres dans la chair, c'est aussi déprimant pour les autres et pour soi-même. Donc je crois qu'un défi que le Seigneur nous donne, c'est mais vois ton conjoint, vois ton voisin, vois ton prochain, vois tes élèves, vois tes frères et sœurs dans l'Église, comme avec le regard de Dieu qui les voit comme une extraordinaire partie de cette menorah. Et puis tu t'arrêtes là. La chair, le Saint-Esprit s'en occupe. Bon, avec parfois de l'intercession et tout, mais le Saint-Esprit, dans ce tourbillon extraordinairement précis, il s'en occupe de cette chair. Et le Seigneur, Dieu, dit par l'Esprit, fait mourir toutes ces actions-là de la chair. Hein. Voilà, donc voilà, c'est cette extraordinaire menorah. Et puis, quand même, les lampes, même si on est au point, même s'il y a L'huile est bonne, même si il n'y a pas de mouche morte, même si vous voyez, il n'y a pas le moi dans les vases qui perturbe. Il faut quand même l'entretenir. Et alors là, vous savez, dans le temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle des mouchettes pour entretenir le chandelier. Et les mouchettes, figurez-vous que la racine hébreu de mouchette, ça parle de ciseaux et de taille. Il faut entretenir les petites mèches, par exemple celles que vous voyez là, je sais qu'au bout d'un moment, elles ne brûlent plus, il faut couper, il faut tailler. Là, ça nous parle bien sûr de l'action d'émonder. Hein. Même quand on se croit au point, le Seigneur, paf, il émonde, et il émonde, et il émonde, pour qu'on brûle encore plus, qu'on brille encore plus. Voilà, donc il y a de l'entretien. La menorah, ça s'entretient. Tout ça, ça s'entretient. Donc ça, c'est de notre côté. Et l'olivier, très important, l'olivier, ça parle aussi de l'héritage hébraïque. Voilà. Ça parle de rechercher, être greffé à l'olivier franc, rechercher l'héritage de Jacob, célébration des fêtes de l'Éternel, être un avec l'Église messianique, prier pour Israël et Jérusalem. Enfin, c'est tout ça. Hein. Mais là, on va développer, mais c'est énorme, énorme, l'olivier. Parce que l'image de l'olivier. Maintenant, on en vient après tout ça à notre onction Zorobabel. Alors Zorobabel, c'est un drôle de nom quand même. Hein. Il y a Babel dedans. Et puis Zorobabel, c'est bizarre ce nom, Zorobabel. Très bizarre. Alors je replace quand même le contexte historique. Et vous allez voir que c'est très très spécial et très... Ça nous remue ce contexte historique. Donc, vous savez qu'il y a eu un premier temple, le grand temple de Salomon, voilà. Et puis, à Jérusalem, et puis après, il y a eu la division, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, le royaume d'Israël qui a fait des grosses bêtises, et c'est eux qui ont été jugés en premier, et déportation, une première déportation à Babylone, et puis après, Juda a fait aussi des tas de bêtises, malgré les avertissements prophétiques, et eux aussi, l'élite de Juda, les princes de Juda, ont été aussi déportés à Babylone. Et donc Zorobabel, c'est un prince de Juda qui est né à Babylone. Zorobabel, ça veut dire rejeton de Babylone, né à Babylone. Ok. Donc, il était pourtant juif, hein, mais il a grandi. En plus, Zorobabel, c'est même un nom, c'est un hébreu, mais dérivé d'un dialecte acadien, donc ce n'est pas vraiment, vraiment hébreu. Hein. Prince de Juda, de la lignée de David. Et ce Zorobabel qui a grandi à Babylone, dans la mentalité de Babylone, comme nous, hein, nous, on est tous formatés Babylone, ou Égypte, ou voilà, tout ce que vous voulez, mais on est là-dedans. Figurez-vous que ce Zorobabel, il est dans la généalogie de Jésus. Il est dans les deux généalogies de Jésus, Zorobabel, prince de Juda. Et il y a eu cet extraordinaire souverain, Cyrus, qui a autorisé, contrairement aux Babyloniens, il a autorisé, lui, en tant que Perse, les populations à revenir dans leur territoire et à même honorer leur propre dieu. Il était très, très, très libéral, ce Cyrus. Et donc, il y a eu un trio de chocs. Il y a eu les deux prophètes, Agé et Zacharie. C'est même un cas tueur de choc. Agé et Zacharie, deux prophètes. Josué, souverain sacrificateur, donc religieux, souverain religieux. Et puis Zorobabel, souverain ou gouverneur mandaté par Cyrus, donc le pouvoir, le gouvernement, quoi, le mandaté par Cyrus. Et tous, ils avaient un objectif, élever un autel à l'Éternel, rétablir le culte, reconstruire le temple. Et alors là, j'ai écrit en rouge sur mes notes. À quelle date s'est achevée la reconstruction du temple? On ne parle pas des murailles, hein. Muraille, Néhémie, c'est autre chose. Hein. On parle du temple. À quel moment le temple a été rebâti et l'achèvement de la reconstruction a pris fin? À quel moment plutôt l'achèvement de la construction a eu lieu? Là, je vous le donne en mille. J'ai eu un choc, j'ai regardé ça le 1er janvier 2015, hein, dans mon dictionnaire biblique, j'ai eu un choc, un choc, je vous le dis la date. Printemps 515 avant Jésus-Christ. Il y a exactement 2500 ans. Et quand on connaît le message, vous savez, d'Alfredo sur les cycles de 500 ans, on se dit, c'est maintenant. 515. Donc 500 ans. Vous savez, la réforme la réforme protestante, c'était il y a 500 ans, etc. etc. On est exactement dans ce cycle de 500 ans, reconstruction du temple. Ouh là là. Et je vous partage cette conviction qui m'est un peu tombée dessus, là, c'est que le Seigneur veut Il dit maintenant, Église de France, Église Josué, tu te lèves, tu te laisses irriguer par les oliviers, tu te positionnes, tu nettoies tes vases, tu fais tout ce que tu veux, mais c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment où le culte est pleinement restauré et où tu brilles de toute ta splendeur, quoi, ta splendeur royale et sacerdotale. Aujourd'hui, c'est l'onction royale. Et c'est ce que dit Dieu, c'est sur le temps de Dieu, le monde a énormément besoin de voir cette lumière, parce que les ténèbres s'épaississent, vous savez, il y a une lumière énorme qui est là, en chacun de nous et collectivement. Et là, demain matin, soyons concrets, demain matin, quand on sera chacun dans le champ physique pour Werner, le champ de l'école, dans notre salle de classe, dans nos bureaux, etc., etc., on est relié à cet énorme chandelier d'or massif que le Seigneur voit. On n'est pas notre petite chair là. Non. On est ce chandelier appelé à briller très fort dans les ténèbres, là où le Seigneur nous envoie, quoi. Donc, nous sommes cette sacrificature royale. Donc, onction royale. Et il y a ce cri, hein, on a dit « Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. » Ou plutôt, le Seigneur nous dit « Réveille-toi. » Et on pense aux divergues, des divierges aussi. Vous savez qu'il y a eu un cri prophétique qui a dit « Hé, l'époux vient, réveillez-vous. » L'époux vient. En plus, on est dans les tétrades. Enfin, oui, il y a des tassines dans le ciel qui... On se dit « Ouh là là, on est dans un temps, il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller. » Et le roi de gloire fait son entrée. Alors, on a des prémices. Comment rentre Jésus? Ouh là là. On va passer à Matthieu 21. On a un prémice dans Matthieu 21. Jésus qui rentre dans Jérusalem, vous savez, comme roi. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Et justement, c'est tiré de Zacharie aussi, cette citation de Matthieu 21. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi. Alors, normalement, un roi, ça vient à cheval. Là, c'est pas du tout un cheval, c'est un âne, une bête de somme, serviteur, onction serviteur. Et puis, on lui dit, il vient à toi plein de douceur, humble, humilité, douceur. On a un royaume qui vient avec des concepts complètement opposés à nos concepts humains. Il vient dans l'humilité, il est proche des gens, il élève la louange des enfants, et vous avez cette louange Hosanna, 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 sauve de grâce. Dans Hosh, vous avez Yoshua, c'est-à-dire le nom même de Jésus, sauveur, Yosh, et puis vous avez Hana, la grâce, celle que vous avez après dans Zacharie 4. Même terme que dans Zacharie 4, 7. C'est Jésus l'agneau qui vient, rempli d'humilité et de douceur. Et vous avez après ce verset dans Zacharie 4 qui nous dit « Ni par puissance ni par force, par l'Esprit du Seigneur. » Et tout le monde connaît ce verset, on connaît ça par cœur, ni par l'Esprit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais on ne se rend peut-être pas compte que dans ce verset, vous avez une énorme confrontation. Ni par puissance, puissance et force, puissance, ça inclut aussi les richesses matérielles, ça inclut... Ça a aussi le sens de armée, de force, rapport de domination, dominant, dominé, etc., rapport de pouvoir, tout ce qui est dans le royaume de ce monde, ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. Confrontation complète de systèmes de pensée et de systèmes de règne, quoi. Donc, Jésus l'agneau qui vient avec cette mentalité, serviteur, douceur et louange des enfants, louange, adoration. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Il y a l'onction agneau. Juste après, si vous regardez dans Matthieu 21, vous avez une autre onction. Et il faut les deux onctions. L'onction royale, il y a les deux. L'onction royale, il y a les deux. Il y a l'agneau et il y a le lion. Et le lion, Matthieu 21, tu peux continuer après Matthieu 21. Sainteté à l'Éternel, Matthieu 21, versets 12 à 16. Ça, c'est la louange, etc. Voilà, Jésus entra dans la cour de temps, c'est juste après, vous voyez. Jésus rentre, roi de gloire. Il chasse tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renverse les comptoirs des chanteurs d'argent, les chaises des marchands de pigeons. Il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Et vous en faites un repère de brigands. Et après, c'est l'onction de guérison. Vous avez tout ensemble. L'onction de guérison, l'adoration des enfants... Vive les écoles chrétiennes qui se multiplient parce que c'est le Seigneur, il attire à lui cette adoration des enfants dès tout petit dans les écoles chrétiennes qui se multiplient sur le territoire actuellement. Donc il y a cette puissante adoration qui monte, mais vous avez de la confrontation. Et là, on ne peut pas en faire l'économie. Il y a l'onction de guérison, l'onction de miracle, tout ce que vous voulez qui arrive, l'adoration qui monte très très fort, et vous avez la confrontation avec le système religieux, avec le système de maman, système financier, vous avez une énorme confrontation. Et on ne peut pas en faire l'économie et on ne doit pas même s'étonner de cette confrontation. Dans l'esprit, elle est violente, hein, cette confrontation. Ouh là là, il vient avec une épée aussi, le Seigneur. Hein. Donc, et rappelez-vous les messages de Pierre Daniel Martin de mai 2014 qui parlait de la confrontation très forte avec l'esprit religieux, hein, en 2014-2015. Donc on est en plein dedans. Quand Jésus revient, voilà ce qu'il fait. Et vous savez, dans Malachi aussi, soudain entre dans son sanctuaire le Seigneur, le Seigneur que vous cherchez, le messager d'alliance, voici, il vient. Il vient comme un feu, il purifie comme la potasse. Alors ça tombe bien, on a un pays de potasse en Alsace, on doit avoir un traitement spécial sûrement avec ça. Il vient comme la potasse, il purifie, il blanchit, il fait son œuvre, il purifie les fils de Lévi. Bah, donc il y a de l'ébranlement, quoi, vous voyez. L'onction de lion, ce n'est pas juste la douceur de l'agneau. Hein. Il y a les deux. Donc, ne soyons pas étonnés. Jésus purifie son temple. Il nous circoncit, il nous purifie, il nous affranchit de tout l'esprit religieux, l'esprit de maman et tout ça, pour revêtir son église de l'onction royale. Alors, l'onction royale, ça veut dire, on règne sur qui ? Bah, premièrement, on règne sur nous. Sur notre chair, par exemple, hein. Par l'esprit, faites mourir les actions du corps, dépouillez-vous du vieil homme, revêtez l'homme nouveau. On a besoin de cette onction pour régner sur nous-mêmes. Première chose, régner. Et que le moi, il rentre. Hein, et même s'il veut parfois lever la tête, non, tu n'as pas le droit de régner, c'est l'esprit de Dieu qui règne. Deuxième chose, on règne sur les circonstances. On règne sur les circonstances. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Un recommandé vous arrive, vous savez, le genre de choses désagréables. Là, je parle des choses très très concrètes que je vis à l'école Daniel parfois, recommander à oh, Seigneur, tu es souverain sur ce recommandé, hein. Et puis, voyez, voir les choses d'en haut et pas les voir écrasées d'en bas. Voir les choses d'en haut. Seigneur, comment toi tu vois tel problème, un problème de voiture, un problème de maison, comment toi tu vois les choses. Voir les choses d'en haut. Ça, c'est régner. On veut régner dans la vie. C'est notre héritage. Régner sur les circonstances. Et puis, troisième chose aussi. Amener le royaume de Dieu là où on est. Et il y a de la confrontation, ça c'est sûr. Hein. Dans nos lieux de travail, partout, amener le royaume de Dieu. Et ça veut dire que il faut tenir ferme. Parce que verset 7 le dit, il y a une montagne. Qui es-tu, grande montagne ? Et chacun de nous, on a une ou des ou beaucoup de montagnes. Alors peut-être mettez dans votre tête, dans votre esprit un nom sur toutes les montagnes qui sont là devant vous. Là, vous les visualisez. Problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes d'élèves, problèmes de couple, problèmes d'enfants, problèmes. Il y a plein de montagnes là, plein de montagnes au niveau personnel, au niveau église, au niveau nation, plein de problèmes, voilà, plein de montagnes. Tout ce qui s'oppose à la construction du royaume de Dieu. Il y a une montagne devant Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne ? Alors, le défi, c'est comment on va réagir par rapport à cette énorme montagne très intimidante, type Goliath, vous voyez, une grosse montagne. Qui es-tu ? Et la parole prophétique, Zacharie, nous dit, qui es-tu, grande montagne ? Pour tenir devant Zorobabel, devant Jésus qui construit le temple, qui élève l'autel, qui rebâtit son église. Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras transformé en plaine. Tu seras aplani, l'hébreu dit, tu deviendras une plaine. Donc, nous, prophétiquement, on doit considérer toutes les montagnes comme un lieu qui va devenir une plaine. Même si c'est parfois très intimidant, dans un premier cas. Et parfois, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance pour que la montagne devienne une plaine. Mais on tient ferme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est une petite digression. L'onction boxer. L'onction boxer. Un boxer, c'est un chien, vous savez. Le problème, le chien avec un museau tout aplati. Et pourquoi, vous savez pourquoi Dieu l'a créé avec un museau tout aplati, le boxer ? Parce que boxer, c'est un pays, ça vient de l'Est, hein, tout ça. Eh bien, il s'attaque au grizzly. Il n'a pas peur. Alors, il y a un énorme grizzly, vous avez un gros ours très, très, très menaçant. Et vous avez le boxer. Il fonce sur le grizzly. J'en avais un quand j'étais petite de boxer, alors j'ai étudié la chose. Il fonce sur le gros ours qui est un mastodonte. Et puis, il s'accroche avec ses crocs. Il s'accroche. Et puis, jusqu'à ce que. Et qui c'est qui gagne ? Le boxer. David, le boxeur. Voilà. Donc, parfois, ça secoue, parfois, ça, c'est énorme, c'est intimidant. Mais même la nature, la création de Dieu nous montre que ça marche. Donc, et puis il y a des versets qui disent ça, je ferai de toi un chariot aigu tout neuf, tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras semblable à de la balle, et toi tu te réjouiras en l'éternel. Donc l'onction chariot, vous choisissez l'onction boxer, l'onction chariot, tout ça, ça marche. Le problème, ce qui est sûr, c'est que une montagne, vous la considérez, non, tu es faite pour devenir une plaine. Et Ésaïe 40 nous dit, les coteaux seront changés en plaine, les défilés étroits en vallons, et la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel sera révélée. Ça, c'est le but. Donc, je crois que j'ai tout. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je crois que j'ai tout dit. Pour l'onction royale. Hein. Donc, je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on reçoive dans la foi cette onction royale. Et donc je rappelle, régner sur nous, régner sur les circonstances, régner, amener le royaume de Dieu, les principes du royaume, la mentalité du royaume, partout où le Seigneur nous place, se voir relié à un corps énorme, une église qui est une merveille pour Dieu, son trésor particulier, relié aux deux oliviers dont la provision est absolument inépuisable, et puis qu'on se prépare pour les grandes choses de 2015. Alors peut-être prier. Seigneur, merci pour la beauté de ton regard sur ton église, sur ta menorah, sur la menorah locale de Josué, sur la menorah nationale de l'église de France. Tu as un regard d'amour passionné. C'est ce que dit Zacharie au début de Zacharie, un amour passionné, ardent pour Sion. Tu aimes passionnellement ton corps et tu vois ton épouse belle, tu vois ta menorah magnifique. Relié à toutes ces onctions, l'onction sacerdotale, l'onction royale. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Gethsémané, par Golgotha. Seigneur, tu as payé un prix énorme pour qu'on soit cette magnifique menorah. Tous ensemble, et chacun de nous, là où tu nous places, reliés les uns aux autres, nous sommes appelés à briller dans les ténèbres, être un repère, à déverser aussi l'huile partout où nous sommes, l'onction. Merci pour cette onction royale dont tu nous équipes, dont tu nous oins ce matin, Seigneur. Merci pour cette onction qui va croissant dans cette année 2015. Merci parce que tu étends nos limites. Merci pour les choses immenses, parce que tu as des grandes ambitions pour ton Église. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Et nous recevons aussi Ésaïe 61. Ton esprit est sur nous, ton onction est sur nous pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, apporter la lumière partout où il y a des ténèbres, rendre la vue aux aveugles. Merci Seigneur pour cette onction, cette nouvelle dimension d'onction dont tu nous équipes ce matin, Seigneur. On la reçoit dans la foi. On ajuste notre regard sur nous-mêmes à ton regard, Seigneur. Et merci pour le prix immense que tu as payé pour ça, Seigneur. Amen.